Nous sommes mercredi 25 avril 2018 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Ah,
quand même, c'est bien. Donc maintenant on est à sa deuxième bière en moins de 10 secondes, ça vous donne une idée quand même.
La cul-sac pendant le générique.
C'est, voilà. Bonsoir Zergy.
Salut.
Et bonsoir Antix, comme... Ah, Antix.
Bonsoir Antix qui a du mal à ouvrir sa
bière. Sa bière, son truc, c'est compliqué.
Il a raté son décapsulage en direct, il est désolé. Voilà, il est banni. Bonsoir.
Il est banni, c'est la fin. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes un comité réduit puisque les enfants sont au lit, hein, Galaxies et Drosgar sont allés se coucher.
En même temps, on va parler de jeux qui sont sortis avant leur naissance.
Les deux, Galaxies, peut-être 3 jeux sur 4 sortis avant sa naissance. Ah, je suis pas sûr, il est né en 2000, me semble-t-il. Donc c'est possible que Wave Race, il était déjà né, mais il n'était pas vieux. Hein. Bref, donc nous allons parler de deux jeux jumeaux, les deux licences sport extrême de Nintendo. Si ça a encore du sens de parler de sport extrême pour... Enfin voilà, ça avait du sens à la fin des années 90, aujourd'hui ça vous dit plus rien. Vous
savez extrême plus limite
c'est. Ouais, c'est un peu ça.
Allez.
Ça vient de la fameuse époque où Tony Hawk Pro Skater était un jeu qui se vendait par Kajo, c'est un peu l'équivalent du Call of Duty de l'époque, où il y avait les X-Games qui passaient en direct sur le câble et le satellite, puisque TNT n'existait pas.
À l'époque, faire du skate, c'était cool.
Voilà, faire du skate, c'était cool, alors qu'aujourd'hui, t'as l'air d'un clodo, dans le meilleur des cas, d'un punk à chien, donc c'est quand même pas top. Mais voilà, il y a une époque où le skate c'était cool, et comme Nintendo n'avait pas trop sa part du gâteau dans le sport extrême, ben il avait créé ses propres licences pour ça. Alors, on va voir que Wave Race, c'est pas tout à fait dans la même mouvance, parce que c'est sorti un petit peu avant cette vague, jeu de mots humour, avant cette vague sport extrême. Mais voilà, on en parlera, donc ce sera le gros sujet de l'émission. Mais nous allons tout de suite commencer avec notre traditionnel tour de table de l'actualité, je bouffe la moitié des mots, c'est pas grave. Et je vais laisser d'aller la charge de Pokémon et je vais laisser la main à Mecton qui va nous parler du scandale de l'ignominie
ignoble
de Panic Button que vous aimez avant.
Donc ça, c'était avant. Une nouvelle qui nous rappelle les heures sombres de notre histoire, n'est-ce pas ? Wolfenstein imposera un téléchargement sur sa version Switch.
Et pas un petit d'ailleurs, c'est alors, 5 gigas de téléchargement.
Voilà, là où c'est très drôle, a priori, donc je pense que c'est d'après le shop, c'est toi qui m'as filé l'info, mais le jeu ferait 13,7 gigas. Et donc bah, il aurait tout à fait été possible qu'il tienne sur une cartouche de 16. Donc ça laisse à penser que ces gros rapia utilisent des cartouches de 8 gigas et qu'ils imposent le téléchargement du reste.
Ce qui est quand même d'une tristesse sans nom, surtout que South Park, l'Anal du Destin, qui sort cette semaine ou la semaine prochaine...
Vendredi, ouais.
Voilà. Lui sort sur une cartouche de 16 gigas. Le jeu fait 14,1 gigas, je crois, et donc il sort sur une cartouche de 16, et ça pose pas plus de problèmes que ça à Ubisoft, qui en plus ne le vend pas plein pot. Alors effectivement, il est moins cher que la version PS4 aujourd'hui, parce que le jeu a quand même quelques mois, mais il n'est pas vendu 70 balles, comme c'était le cas de la version PS4 à sa sortie. Il est vendu 45 euros, je crois, meilleur prix que j'ai trouvé. Donc il est pas non plus... c'est pas la folie, quoi. Et là, j'ai un peu du mal à comprendre, surtout que Bethesda avait plutôt l'air d'être parti pour le vendre plein pot, Wolfenstein 2, donc du coup, c'est quand même compliqué de justifier ça. Si tu le vendais en version budget, comme c'était le cas de L.A. Noire, qui était vendu à 20 balles... Donc
ça
le...
fait chier, mais ça s'explique, quoi.
Voilà, tu peux comprendre aussi que les mecs aient pas envie non plus de mettre... de payer 15 balles à la fabrication de la cartouche et de le vendre 25 balles, ça veut dire qu'ils vont faire zéro marge dessus. Donc là, les mecs mettent des cartouches de 8 ou je sais même plus s'ils avaient mis une cartouche plus petite ou plus grande. Là, pour Wolfenstein 2, je trouve que ça se justifie quand même nettement moins. Et c'est quand même super dommage.
Alors, puis après, effectivement, ce que tu disais, le jour où les serveurs sont down, tu te retrouves avec une belle cartouche qui a pas bon goût, mais qui te sert à rien du tout, quoi.
Et est-ce que c'est comme Doom? Est-ce que le truc à télécharger c'est juste le multi?
Non, il est obligatoire.
Il n'y a pas de multi et sur la pochette de Doom en fait il n'y a pas écrit requiert un accès internet pour télécharger le machin parce que t'as vraiment le jeu solo qui est là. Ce que tu télécharges c'est vraiment juste le multi.
Alors même si t'as pas le patch Giro qui transcende le tout. mais ton truc est quand même voilà, autoporteur. Mais...
Tout à fait. Moi, je Doom, j'y avais joué la première fois que j'y ai joué. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis la Switch en mode avion, j'ai inséré la cartouche, j'ai démarré le jeu. Le jeu démarre, il marche. Une fois que t'es démarré dans la campagne, tu le dock, et j'ai fait, je sais plus, j'ai dû faire les deux ou trois premières heures de jeu sans faire la mise à jour, et j'avais vraiment le jeu, pas de problème. Là, ce sera pas le cas, c'est, je veux dire, comme elle est noire, le truc te dira, bah, il faut télécharger 2 ou 3 gigas avant de pouvoir démarrer. Bon, ça fait un peu chier, surtout que, ouais, vu la taille du téléchargement, c'est un peu des rapias chez Bethesda, parce que Skyrim est sur une cartouche de 16 gigas, si je me rappelle bien. Et même Elle est Noire, qui était sortie en version budget, était sur une cartouche de 16 gigas. Il y avait 4 gigas à télécharger en plus, mais c'était une cartouche de 16. Donc là, je sais pas ce qui branle, ou alors il y a quelque chose d'autre qui fait que la cartouche de 16, on peut pas vraiment rentrer 16 gigas dedans, j'en sais rien, mais c'est quand même extrêmement curieux, et c'est un peu décevant. Bethesda qui avait plutôt fait un sacré boulot sur Switch jusqu'à présent, avec Doom, avec Skyrim... Enfin voilà, Wolfenstein 2, on était quand même pas mal à l'attendre. Là, moi, honnêtement, sur la version physique... ça me fait un peu chier.
Ouais, voilà. Ouais, c'est clair.
Bon. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. La deuxième petite actualité dont nous allons parler juste avant d'enchaîner, alors, sauf si quelqu'un a quelque chose de surpris, j'ai pas demandé avant quelqu'un.
Je ferai un petit piratage.
Ouais, j'ai un petit crochet par les annonces, si tu veux.
Crochet d'annonces.
Alors, moi, j'ai deux petites annonces. Le premier, c'est l'annonce de la sortie d'un jeu qui s'appelle Wizard of Legend, générique comme nom tu meurs.
Ça dirait un nom de RPG japonais.
C'est vraiment ça. Et ça a un esprit très, très arcade japonaise avec... c'est un jeu vu du dessus d'action. Tu joues des magiciens qui ont plusieurs sorts. Faut s'imaginer ça un petit peu comme des... un peu comme des attaques de shoot'em up, en fait. Je sais pas trop comment décrire.
Ça ressemblera presque à Gauntlet ou quelque chose comme ça.
Ouais, enfin, après Gauntlet, je connais pas assez, mais ça se veut dans cette VR, ces jeux d'action vu du dessus assez nerveux. Moi, ça m'a tout de suite pensé à... pas exactement pareil, mais à Is. Qui dans son pendant 2D est extrêmement nerveux. Enfin, faut s'imaginer un Zelda qui ça va à fond les ballons en termes d'action. C'est un jeu que j'ai repéré grâce à Gamekult en fin d'année dernière. Et donc, qui a été annoncé pour le 15 mai en sortie sur à peu près tous les supports possibles. Et surtout, c'est un jeu qui peut jouer en coop. Donc, ça a l'air d'être plutôt un truc à regarder. Donc, je sais pas ce que ça donnera à la sortie finale. Ça s'appelle donc Wizard of Legend. Et je pense que je le prendrai si les retours sont bons, et je ferai peut-être un petit retour ici même pour dire si ça me plaît ou pas.
Eh bien, c'est une excellente idée. Retour que nous accepterons avec grand plaisir.
Le second, tant que j'y suis, c'est Arc System Works qui a annoncé la sortie de Guilty Gear XX Accent Core R. Merci pour le nom.
Oui, c'est comme d'habitude. Turbo Alpha Deluxe Circus Edition.
Voilà, donc ce qui rajoute à nouveau jeu de baston des années 2000 que tout le monde a oublié sur Switch, avec Street Fighter 3 et Garou Mark of the Wolf.
Voilà, mais je pense que je me demande si les sorties SNK, j'ai l'impression en démat sur Switch, les jeux de combat SNK qui sont sortis, parce qu'ils ont sorti plein en fait, de jeux de la Neo Geo sur Switch en mode virtual console, entre guillemets, j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché, hein, parce qu'on a SNK Héroïne, machin truc qui va sortir dans pas longtemps. On a ce jeu-là, donc Guilty Gear XX, machin, tout ça, qui va sortir dans pas longtemps. Alors, Ultra Street Fighter 2 a plutôt bien marché.
C'est pas un jeu SNK, pour le coup, c'est Guilty Gear. Oui.
Je sais, Guilty Gear, c'est pas un jeu SNK,
ouais,
mais
c'est
la
philosophie.
C'est un jeu de baston arcade.
C'est ça. Le fait que SNK, on est sorti un paquet sur Switch, ça a dû quand même marcher relativement bien, et du coup, je pense que ça encourage un peu les autres à se dire « Ah putain, il y a peut-être un petit marché pour le jeu de combat.
» Je pense que l'espèce de mini-succès à son niveau de Ultra Street Fighter 2, qui est quand même la dernière version d'un jeu qui date de 92... ça a donné des idées aux autres, et je pense que la collection de Street Fighter, de vieux Street Fighter qui sort le mois prochain, ça vient aussi un peu de ça.
Ouais, j'aimerais bien que Namco se bouge un peu le cul et nous sorte le Soul Calibur 2 HD sur Switch. Je pense que ce serait pas compliqué à faire.
Je serais pas contre avoir le 6 aussi, parce qu'il est vraiment sympa. Enfin, en tout cas, j'ai écouté les retours de Gamekult aujourd'hui, et ils avaient l'air de dire que ça se dirige vers un jeu de baston bien sympathique à jouer, notamment avec ses potes.
D'accord.
Il dit ça parce que Eevee a des seins encore plus gros.
Mais en fait, Eevee a pas encore été annoncé. Ça me semble.
En DLC.
En DLC, tu auras son augmentation de poitrine.
En DLC, en fait, tu pourras retirer le soutif.
Ah oui, la
bonne
idée.
C'est un DLC qui t'enlève des choses.
Oh, la bonne idée. Ah non, mais je pense que...
Rigole pas, je
pense
que ça marcherait.
Elle a un bonnet D, en fait, quand t'achètes le jeu, mais tu peux la passer en bonnet F, avec un... Bref, on va arrêter sur ce sujet parce que ça devient malsain. Et pour finir avec les sujets malsains d'ailleurs.
Attends, je pirate le truc pour faire un petit point télé. Yes. Putain, je vais parler télé sur de la radio. Alors, juste un petit salut à titre personnel à mon ami Alain Chabat. Non, je déconne, je le connais pas. Le Burger Quiz reprend ce soir, les enfants.
Ah, donc nous avons inspiré le retour à la télévision du Burger Quiz.
Ça valait le coup.
À nous seuls.
Le Burger Quiz, une émission inspirée par les jeux du Dojo Bar, évidemment.
Complètement.
C'est complètement dans ce sens-là que ça s'est passé.
Non, sans déconner, je regarderai le replay et si jamais je retrouve des vannes à nous dedans, je gueule.
Est-ce que s'ils font, s'ils font les mêmes questionnaires que nous, on va gueuler.
Ouais. Ça et l'autre truc, allez, la dernière fois que je vous en parle, il y a très forte chance que ça soit la dernière fois d'ailleurs. No Life, qui même en mode zombie, donc a publié ce soir deux interviews d'auteurs et surtout donc un debug mode de 28 minutes sur les coulisses de la fin de la chaîne. Un petit joyau de transparence. Donc, si vous l'avez pas vu, il sera rediffusé à 22h à 1h, si vous avez encore la chance de recevoir la chaîne par vos box. Coucou bande de bâtards de chez Free. Hein. Sinon, ça passe encore sur Twitch, ce sera dispo sur Noco dans la soirée. Alors, tous les abonnements sont encore valides, hein, y a pas de souci si vous l'étiez. Et il y a très forte chance que ça soit dispo sur YouTube. Voilà.
Oui, d'accord, les mecs vont peut-être.
Ouais.
Non, enfin, pour, vraiment pour le testament de la chaîne, en gros, ils vont quand même lâcher le truc sur YouTube.
Et vraiment, le docu est très bien foutu. Quoi. Ça se regarde même sans mal, même si on connaissait pas l'histoire de la chaîne.
D'accord. Voilà. Bon, une bonne recommandation. Et donc, je vais finir avec des trucs encore plus glauques. La Commission européenne, qui se penchait sur le cas des lootbox il y a peu de temps, qui est savoir est-ce que c'était du jeu d'argent ou pas, a tranché. Les lootbox sont bien assimilés à du jeu d'argent. Ce qui veut dire que, messieurs,
que tu me dois 10 balles, parce qu'on n'avait pas...
on n'avait pas parié, non, je pense pas.
Oh, merde.
Ce qui veut dire que, messieurs, Electronic Arts et tout ça, vous êtes dans le caca, parce qu'il va falloir maintenant adopter les mêmes standards de sécurité que les casinos, si vous voulez continuer à vendre des lootbox en Europe.
Même, du coup, tout ce qui est vente aux mineurs et tout, ça va être une horreur.
Il va y avoir une régulation, il va y avoir... Attends, c'est comme les casinos, hein. T'es soumis à des lois ultra, ultra restrictives, t'es... Ils sont dans le caca, donc à mon avis, les lootbox vont très 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 vite s'évanouir, au moins en Europe. Alors je sais pas comment ils vont se démerder pour... Peut-être qu'ils désactiveront les lootbox en Europe, mais qu'ils les laisseront actifs dans le reste du monde, j'en sais rien. Mais là, bon, après, la commission a décidé que, mais globalement, il va quand même falloir quelques mois pour que ce soit inscrit éventuellement dans le droit, et que, c'est toujours pareil, il y a la loi, il y a le décret d'application, il y a effectivement l'application réelle. Donc ça va encore être le siècle pendant quelques mois, mais... si l'affaire Electronic Arts Star Wars Battlefront 2 n'avait pas dissuadé beaucoup d'éditeurs, là ça risque de les dissuader pas mal, parce que l'Europe c'est quand même un gros marché. Et là la commission a même statué qu'effectivement les lootbox c'était pareil sur mobile, donc ça veut dire qu'il y a tout un tas d'éditeurs de jeux mobiles qui sont en train de je pense faire dans leur froc en se disant bah merde, notre modèle économique en fait il tient pas la route. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les start low, contrairement aux startups, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans ton modèle économique, effectivement, il y a un truc de ce genre-là, c'est qu'a priori, tu peux
déjà
mettre la clé
sur un balai. Ouais.
Voilà, la douche écossaise.
C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est comme les startups qui se plaignent que les services ultra pas chers d'OVH ne fonctionnent pas. Vous êtes une startup, vous garantissez à vos clients le fait que vos services fonctionnent. Le fait qu'OVH ait une panne, si vous vous appuyez dessus, mais c'est pas le problème d'OVH, c'est votre problème.
Tu peux pas avoir pas cher, bonne qualité et rapide.
C'est ça. On peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre et le sourire de la crémière. On est toujours dans la même problématique. Donc voilà, là, je pense qu'il y a quelques éditeurs qui vont devoir revoir un petit peu leur business plan sur certains jeux. Et ça va peut-être faire un petit peu mal. Voilà. Mais tant pis pour leur cul. Ça fera pas
ça,
de mal.
C'est fait.
Voilà. Là, c'est encore une fois où la Commission européenne, je dois quand même reconnaître que, ok les gars, vous avez géré. Pas grand-chose à voir.
Lootbox ou contrôle 10 pieds.
Ouais.
C'est ça en fait. Putain, on pourrait faire ça. Putain, ce serait énorme. Bref. Bon, nous allons vous écouter un petit morceau de... Enfin, un petit morceau. Le morceau principal de la bande originale de 1080 Avalanche, qui est en fait le seul morceau de musique potable entre 1080 Snowboarding, 1080 Avalanche, Wave Race 64 et Wave of Blue Storm. Il y a plein de morceaux de musique. Il y en a quelques-uns qui sont mémorables, notamment Wave Race. Il y a quelques morceaux...
Musique, avec des guillemets.
Ouais, voilà. Ça reste quand même du boom-boom qui accompagne un jeu d'action un peu arcade. Donc, voilà. Pour 1080, il n'y a rien d'exceptionnel. Pour Wave Race, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Dans 1080 Avalanche, il y a quand même un petit peu plus de morceaux sympas. Alors, le défaut de toutes les BO de cette époque-là, c'est que les mecs avaient tendance à prendre des groupes de rock californiens qui coûtaient pas trop cher, et à balancer la sauce, c'est-à-dire que t'avais 3, 4, 5, 10 morceaux du même album qui étaient à l'intérieur du truc, façon Tony Hawk, façon Crazy Taxi.
Crazy Taxi Offspring, ouais.
Bah, alors, Crazy Taxi, ouais, ça va ensemble.
Crazy Taxi avait fait Offspring, et du coup c'était un peu classe, parce que Offspring n'était pas encore ultra connu au moment où Crazy Taxi est sorti, mais du coup ça a dû contribuer un petit peu au truc aussi, donc ça me fait un peu marrer. Mais voilà, là on va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Cauterize, qui a été dissous... Enfin, qui n'existe plus depuis 2007. Cet album date de 1999 ou 2000, je ne sais plus exactement. Le groupe a été formé en 1999, donc je pense que c'était un de leurs premiers albums.
En l'an 2 avant Galaxies.
C'est un peu ça. L'album s'appelait As Far From Real. Le morceau s'appelle Choke du groupe Cauterize. Et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 4 minutes. Voilà, de retour. Et donc, nous allons parler... Alors, au départ, je voulais parler des jeux N64, puis des jeux GameCube. Mais en fait, c'est une très mauvaise idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parler de 1080, la série. Hein, 1080 Snowboarding sur N64, puis 1080 Avalanche sur GameCube. Et ensuite, parler de Wave Race, parce que, basiquement, 1080, on va peut-être avoir pas mal de choses à dire. Wave Race, on va peut-être avoir un peu moins de trucs à dire sur la version N64, mais ça permet... Voilà, d'équilibrer un petit peu l'émission, comme ça. Donc, on va commencer par 1080 Snowboarding, auquel aucun d'entre vous n'a joué, parce que vous étiez trop jeune.
Non, j'y ai joué 5 minutes, hier.
Et donc, tu peux pondre un test de 4 pages sur IGN.
Sur Gameblog aussi.
Aussi, oui.
Yes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais recruté là-bas. Hein.
Alors, 1080 Snowboarding, c'est un jeu qui est sorti... C'est un jeu un peu particulier, parce qu'il est sorti, effectivement, en plein dans la vague, les jeux de snowboard.
Tu veux dire dans l'avalanche ?
Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les Tony Hawk Pro Skater, les jeux en fait de sport extrême, le sport extrême de manière générale, c'est extrêmement populaire à la fin des années 90. Voilà, les jeux de glisse, il y a des jeux de surf, très mauvais d'ailleurs, il y a Kelly Slater Pro Surfer, je crois, qui était un jeu absolument atroce.
C'est aussi l'époque des Snowboard Kids.
Il y a eu Snowboard
sur
Kids,
PlayStation.
Mais pour alors, il y en a
et
eu
et du mini-jeu de snowboard sur Final Fantasy VII.
Est-ce que c'est ça qui a lancé cette vague sur le sport extrême?
Oui.
Et sur PlayStation, il y avait aussi Cool Border.
Il y avait aussi Cool Borders, et pour moi, le Cool Borders est sorti assez tôt.
Putain,
enfin,
c'était
moi,
dur, ça, Cool
Borders. Ah oui, c'était... Ouais,
c'était... Bah, c'était surtout une maniabilité. C'est comme tous les jeux PlayStation, en fait. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont peut-être très jolis, enfin jolis, mais qui ont une maniabilité rigide. T'as l'impression de contrôler une brique, quoi, en fait. C'est juste atroce. Moi, je suis désolé, les jeux PlayStation, c'est ça. Tomb Raider, Metal Gear Solid,
là,
Final Fantasy. J'ai l'impression de conduire un camion, quoi. Un camion Ben. C'est pas très agréable. Donc voilà, il y a eu toute une vague, effectivement, de sports extrêmes. On commençait à voir les X-Games. Je crois que ça n'existe plus, même, ce truc-là.
Juste, ça doit encore exister, quand même.
Dans lequel t'avais des mecs comme Tony Hawk, comme des gens un peu connus du monde du skate.
Comme Tony Hawk.
Oui, voilà, mais j'en connais pas d'autres. Du monde du skate et du monde de la glisse. Et t'avais donc les X-Games, les Winter X-Games. Donc, le jeu du sport extrême, les Jeux Olympiques de sport extrême, mais d'hiver, où tu avais du snowboard, des mini-skis, et pas de curling, étonnamment. Bref, tu avais tout un tas de trucs de sport extrême à la fin des années 90, au début des années 2000, et donc il y a tout un tas d'éditeurs qui se sont engouffrés là-dedans. D'où la série des Tony Hawk Pro Skater, d'où les tentatives avec le surf, avec, je crois que c'est Kelly Slater Pro Surfer, un truc comme ça. Bref, il y a eu plein de jeux.
Il y avait
pas
un mec qui faisait du roller aussi
J'ai pas souvenir, mais c'est possible. Hein. C'est possible. Je veux dire, le plus emblématique là-dedans, c'était Tony Hawk Pro Skater, je pense que c'est vraiment le...
C'est celui qui a marché et qui a marqué tout le monde, en fait.
C'est ça, puis surtout qui a continué à fonctionner dans la durée, parce que des jeux Tony Hawk, il y en a eu jusque la Wii est sortie. Le line-up de sortie de la Wii, il y avait un jeu Tony Hawk. Tony Hawk Downhill, si je me rappelle bien.
Ouais, ça reste une série qui est restée populaire...
Ne serait-ce que parce que bah, le skate, ça reste quand même, même si on s'en moque un peu nous en off, ça reste quand même quelque chose de corps plutôt populaire chez les jeunes adolescents. Et c'est aussi une série qui, en fait, bon, pour avoir un peu joué à Tony Hawk, ça se prend super bien en main, je trouve. Et c'est en fait très agréable d'essayer d'enchaîner les figures pour faire des scores, quoi.
Oui, en fait, c'est des jeux très typés arcade aussi, finalement. C'est-à-dire, tu mets une pièce, t'appuies sur start, puis voilà, tant que tu t'es pas cassé la gueule, bah, tu continues à faire des figures, machin, à ramasser des trucs, à casser des trucs dans le niveau. Enfin, c'est. Voilà, c'est assez marrant.
Et à avoir des gros chiffres qui apparaissent à l'écran.
Voilà, et puis des combos, et après il y a des orbes, et attendez. Je crois que
je me suis trompé. Est-ce qu'on ne pas d'émission et on passe ça sur celle de la semaine dernière
Bref, donc Cool Borders sort sur PlayStation. Moi, Cool Borders, j'y ai joué. Je crois que c'était un an avant 1080 Snowboarding. J'ai joué chez un pote. Il a dit ah, c'est trop bien, c'est du snowboard et tout. J'ai l'impression d'avoir une brique effectivement sur une planche. Mais c'est une brique quand même. Et donc Nintendo, qui a envie lui aussi de faire du pognon avec cette histoire de sport extrême, il n'y a pas de raison, sort 1080 Snowboarding, un jeu de snowboard.
Et enterre la concurrence.
En termes de gameplay, enterre la concurrence, mais le problème c'est que le jeu il a pas ultra bien vieilli.
Comme beaucoup de jeux 64.
Ça dépend, je trouve que celui-là il est particulièrement... En fait ce qui est très con dans 1080 Snowboarding, alors c'est un jeu qui est super agréable à jouer, parce qu'il n'est pas trop prise de tête dans le principe.
Sans le mais.
Bah, en fait, c'est quand même un jeu où, globalement, tu as même besoin d'appuyer sur l'accélérateur, vu que de toute façon, tu descends.
Oui, tout à fait. Mais déjà, rien que ça, c'est bien.
Mais c'est vrai que pour avoir pris en main... Alors, j'ai fait une petite course hier, avant de me rendre compte que j'étais pas très motivé pour jouer à des jeux de sport sur Nintendo 64. C'est pas trop mon truc, on va pas se mentir. C'est vrai que ça se comprenait vite. Pour le coup, c'était un jeu d'arcade pour moi où bah, tu lançais ta course et puis ton mec descendait et puis t'essuyais un peu sur les touches et puis tu voyais que de toute façon ça marchait quand même. Donc,
Bah, en fait, il y a assez peu de touches pour faire fonctionner 1080 Snowboarding. T'as la touche A qui permet de sauter, tout bêtement. C'est-à-dire que tu maintiens A, tu lâches A, bah, le mec saute. Quoi. Voilà. T'as la touche R qui permet en fait d'aller contrôler les rotations. Donc quand tu es en l'air, tu fais R et une direction et tu vas te mettre à tourner, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et donc tu vas faire des 180, puis 360, puis 540, puis 720, l'objectif étant le fameux 1080, c'est-à-dire faire 3 tours sur soi-même pendant une cascade, ce qui est absolument horriblement difficile à faire. Je crois que j'ai jamais réussi à faire un 1080 dans ce jeu, parce que quand tu regardes la gueule de la manip, tu fais non.
Est-ce que ça rapporte quelque chose de faire des figures?
Alors, c'est pour moi un des défauts du jeu.
Si tu es un Timmy, oui.
Si tu es un Timmy, oui. Alors, en fait, le jeu est assez simple. Basiquement, tu l'as peut-être pas vu dans ta course, parce qu'effectivement, tu n'as fait que la descente, quoi. Donc, une fois que tu es lancé, tu appuies sur le stick vers l'avant pour te lancer. C'est le départ turbo, en fait, c'est ça. Tu appuies sur le stick vers l'avant et le personnage se lance.
Voilà.
Voilà. Et en fait, tu peux appuyer sur Z pour te pencher. En fait, quand tu te penches, enfin, quand tu te baisses, quand tu abaisses ton centre de gravité, tu vas plus vite.
Ouais, ça j'avais remarqué.
Voilà, c'est aussi le truc qui te permet d'atterrir en douceur. C'est-à-dire, quand tu fais un saut, quoi qu'il arrive, il faut appuyer sur Z au moment d'atterrir pour atterrir en douceur et éviter de te prendre un gadin.
Toujours sur Z.
Voilà, gadins qui sont extrêmement punitifs. Non, en plus, il faut appuyer sur Z au bon moment et en ayant la planche à peu près parallèle à la piste, ce qui n'est pas toujours évident à faire parce que des fois, tu as des dénivelés. Enfin bref, c'est un peu plus subtil que ça en a l'air, en fait.
Bah oui, parce que tu as une jauge de dégâts.
Qui est limité, c'est-à-dire si tu prends trop de dégâts dans une course, c'est-à-dire tu prends trop de râteaux dans une course, tu es automatiquement éliminé. Et donc tu perds une carte, parce qu'en fait le principe du mode challenge, du mode tournoi, championnat, quoi, c'est qu'on te file 3 cartes au départ, et tu fais 4, puis 5, puis 6 courses, puis je crois qu'il y a même un mode expert avec 7 courses. Il y a dans 1080 Avalanche, j'en suis sûr, dans 1080 Snowboarding, je ne l'ai pas débloqué aujourd'hui. Donc je suis pas certain, parce que j'ai pas réussi à finir le mode hard, parce que y a quelques courses que je ne connais pas assez bien. Donc voilà, faut quand même éviter de te prendre trop de gadins, sinon tu prends des dégâts. Et c'est à peu près tout, voilà, y a pas grand chose, y a pas beaucoup plus de subtilité que ça. Pour moi, le gros problème de 1080, c'est qu'en fait, c'est pratiquement deux jeux en un. T'as le mode course, où tu fais de la course, et où basiquement, bah, tu maintiens Z, t'essaies de négocier tes virages le mieux possible, tu te relèves de temps en temps pour négocier des virages un peu plus serrés. Faut faire des bonnes réceptions de saut, faut éviter de prendre des gadins dans la poire. Et derrière, il faut essayer de prendre la trajectoire la plus optimale et parfois le chemin le plus optimal. Une des originalités de 1080 Snowboarding par rapport à un Cool Borders, c'est qu'il y a souvent deux ou trois chemins disponibles sur une piste. Et très souvent, il y a un chemin qui est vraiment beaucoup plus optimal que les autres, mais qui n'est pas évident du tout à emprunter.
Genre le raccourci de Mario Kart, quoi.
C'est presque le raccourci de Mario Kart, mais sauf que là, c'est même, je pense que dans 1080 Avalanche, ils ont encore plus poussé le truc. Parce qu'en général, tu as un chemin très haut, plutôt façon Sonic, en fait. C'est triste à dire, mais tu vois, tu as un chemin très haut qui rapporte énormément de bonus, et tu as le chemin très bas qui est le plus chiant, le plus long, le plus relou, voilà, mais où tu finis toujours par atterrir parce que c'est de la merde. Ben 1080, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu as toujours un chemin très optimal, mais qui passe plutôt en hauteur, et en fait, quand tu es en bas, tu es dans les crevasses et trucs comme ça, donc tu as énormément de virages à faire. Donc ça veut pas dire que tu vas moins vite, mais tu es obligé de faire plein de négociations de virages et tout, donc tu as plus de chances de te croûter, quoi. Et donc 1080 Snowboarding, c'est un peu moins accentué que sur 1080 Avalanche, où vraiment toutes les courses sont construites comme ça. Mais là, t'as quand même, voilà, prendre le chemin le plus optimal, essayer de découvrir les raccourcis, essayer de pas se gameler et tout ça, mais t'as d'un côté ce mode championnat qui t'impose un jeu de vitesse, mais vraiment de vitesse, c'est-à-dire faut aller plus vite que l'adversaire, faut moins se gadiner que lui, et ainsi de suite. Et t'as à côté une espèce de stunt mode dans lequel l'objectif, c'est de faire des points en faisant le plus de figures possible. Voilà. Et si tu fais des figures en mode course, ça rapporte pas grand-chose, enfin ça rapporte rien, et si tu vas vite en mode stunt, bah ça sert à rien non plus. Et du coup, c'est très con parce que tu te retrouves finalement avec quasiment deux gameplays différents et deux façons de jouer différentes. Et je trouve ça très très con. Enfin,
Elles ont pas l'air de s'aligner. Alors, on va peut-être en parler après pour Blue Storm, mais il me semble que dans Blue Storm, tu faisais des figures, tu gagnais du turbo, non? Un truc comme ça?
Ouais, t'as des trucs comme ça. Et en fait, le côté un peu dommage de ce 1080 Snowboarding, c'est ça. C'est que finalement, c'est comme si tu avais deux jeux complètement séparés, très amusants, hein, avec la même base de physique et tout ça. Mais voilà, d'un côté, tu as un jeu de course où l'objectif, c'est vraiment d'aller vite, point, de faire les meilleurs temps possibles. Et de l'autre côté, tu as un mock stunt qui ressemble plus à une espèce de score attaque où l'objectif, c'est de passer la manette à tes potes pour voir s'ils arrivent à faire mieux que toi sur le half-pipe. Et au bout de 1 minute 30, ben voilà, ils ont fait 10 300 points. Ah, tu prends la manette, tu essaies de faire un peu plus, quoi. Mais il n'y a pas plus de motivation que ça. À faire le mode stunt, tu débloques pas de personnages, en tout cas pas à ma connaissance. Tu débloques pas. Enfin, si tu débloques des planches supplémentaires, des trucs comme ça, mais. Voilà, basiquement, si tu fais un Indinos Grab 360 Stealthfish dans une course, ça ne sert à rien. À part que t'as beaucoup plus de chances de te ramasser la gueule à l'atterrissage. Du coup, tu le fais pas. Et même. Quand t'es en course, quand tu fais de vrais championnats, en général, t'essayes d'éviter les tremplins parce que quand t'es en l'air, t'as tendance à aller un tout petit peu moins vite que quand t'es au sol. Donc c'est quand même très con. Donc c'est pas un mauvais jeu, hein. C'est un des seuls jeux de snowboard sur N64 avec Snowboard Kids, donc on parlait tout à l'heure, Snowboard Kids, Snowboard Kids 2, qui sont des jeux extrêmement rares, très difficiles à arriver à trouver d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage. Mais je trouve que cette dichotomie du gameplay. Putain, Julien Chou. Nice.
Wow.
Ouais, non, attendez, là on vient d'augmenter le. Et super dommage. Et voilà, c'est. Parce que t'as des pistes qui sont très bien, le jeu est techniquement plutôt solide. Il y a juste. Chaque fois que tu passes dans la poudreuse, en fait, t'as une espèce d'effet de particule, et du coup, le jeu passe en mode présentation PowerPoint. Du coup, on passe en mode 2 ou 3 images par seconde, parce qu'il y a l'effet de particule. Alors, l'effet de particule est magnifique, hein. Mais il est très figé.
Ce qui est un petit peu dommage quand tu veux faire de ton jeu de ski une démo technique sur comment on gère la neige sur Nintendo 64. On va pas se mentir, je pense que c'est aussi une des raisons d'existence de jeu. Hein.
Il est sorti un petit peu tard dans la vie de la console, donc je suis 98. Pas sûr. Ouais, voilà, c'est pas
deux ans après.
À 3 images par seconde, tu vois mieux l'effet technique, monsieur. T'as plus de temps pour le voir.
Mais attends, si ça se trouve, c'est une espèce de mode. Tu sais, c'est une espèce de bullet time, tu vois, quand tu passes dans la poudreuse. C'est pas.
C'est une feature.
Mais le jeu t'affiche ta honte.
De passer dans la poudreuse.
Mais c'est vrai que c'est dommage cette dichotomie entre les figures et la course, parce qu'il me semble. Alors, je parlais de Wave Race, mais je crois que c'est aussi le cas de SSX, où faire des figures. T'augmente ta jauge de bouche plus vite, tu vois. Un peu comme ce que faisait Burnout avec
les prises de risque,
les stunts, les prises de risque en voiture, tu vois.
C'est ça, t'as le côté risque-récompense qui là n'existe pas.
Le jeu rajoute du piment dans la course parce que prendre le temps de faire une figure, c'est quand même prendre le risque de se casser la gueule. Mais réussir sa figure, ça veut dire derrière pouvoir avoir un moyen d'aller plus vite ou autre chose. Hein. Ça peut être un autre type de récompense, mais c'est là où c'est un peu dommage, je trouve.
Bah, c'est vrai que c'est quand même super dommage, et je suis le premier à le dire, surtout qu'il n'y a même pas de... Tu pourrais te dire que ça nuirait un peu au réalisme, je mets des gros guillemets, d'un jeu de snowboard. Effectivement, tu fais une figure, tu vas plus vite en atterrissant, ça n'a pas de sens. Faut quand même être honnête. Maintenant, le jeu, enfin 1080 Snowboarding se voulait à l'époque un jeu plutôt réaliste. Effectivement,
pas arcade pur.
Pas arcade pur. Alors le gameplay est quand même relativement arcade. Faut arrêter de voilà. Mais comparé à un Cool Borders où toutes les pistes étaient très artificielles, finalement c'est quasiment que des vraies pistes. Là, c'est à part deux ou trois pistes peut-être, et encore je dirais une en fait. Tout le reste se passe plus ou moins dans la nature. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que les courses soient le plus organiques possible. C'est-à-dire que tu vas passer à travers un village, sur une rivière gelée, à travers un bois. T'as jamais de piste bien définie où on te dit, voilà, le point A, le point B, t'as des portes, des machins, des trucs. Non, c'est vraiment... On te lâche pratiquement en free ride, finalement. Comment ça s'appelle? Du ski sauvage? Comment c'est le mot français?
Hors-piste.
Hors-piste. Donc l'idée, c'était vraiment ça. C'était on te lâche dans du hors-piste. Donc t'es pas guidé, donc ouais, tu vas passer dans une forêt, puis il va y avoir un bout de montagne qu'il va falloir contourner, puis après tu vas te retrouver dans une crevasse, tu vas passer à travers un village, tu vas... Voilà. C'est un peu ça, 1080, c'était le fait de dire, on essaie d'avoir des niveaux plus organiques, et c'est vrai que c'est... Du coup, t'as ce côté un peu... On essaie de faire un truc réaliste, avec des gros guillemets, hein, réaliste, avec un gameplay un peu arcade, donc on est... Parce que un gameplay réaliste sur du snowboard, je vois vraiment pas comment on pourrait faire en réalité. Et derrière, les mecs, je pense que les mecs se sont retenus en se disant, ah, faut pas qu'on mette genre un bonus de stun ou je sais pas quoi, parce que sinon on va avoir l'air con, quoi. Et c'est un peu dommage parce que si tu faisais genre une petite figure et que tu réussis bien ton atterrissage, ça te donne un petit boost ou je sais pas quoi, ou ça te permet d'aller augmenter ta vitesse de pointe de 1-2 km/h.
Ouais, ou de récupérer du damage. Ouais.
Ou de récupérer un peu de damage. Tu vois, il y aurait eu des trucs à faire, quoi.
Alors, du gameplay réaliste sur le snowboard avec la Wii Balance Board, éventuellement.
Mais d'ailleurs, il y a Shaun White Snowboarding qui était très très bon.
Oui, c'était celui-là.
La Wii Balance Board, ça fait partie des très 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 bons jeux à jouer à la Wii Balance Board, même si c'est pas réaliste du tout. Mais c'est un jeu super fun à jouer. Moi, je me suis vraiment éclaté dessus. Vraiment très très bon.
Je confirme, ouais.
Bien meilleur que les moutures PS3 360 qui étaient de la merde. Bref. Donc 1080 Snowboarding, pas un mauvais jeu, rigolo à maîtriser. Pas évident du tout, c'est-à-dire que finir en easy, en medium, le mode championnat, bah, faut déjà s'accrocher un peu, en hard. J'ai buté 3-4 fois dessus cet après-midi, au bout d'un moment je me suis dit bon allez j'arrête, mais je progressais, donc je sais qu'à un moment j'y serais arrivé, mais c'est pas si évident que ça, faut bien connaître les pistes, faut bien connaître les raccourcis, faut pas se louper. C'est vraiment, ça fait vraiment, t'as vraiment pas le droit à l'erreur, surtout en hard, parce que l'adversaire lui va vraiment prendre tous les raccourcis, toutes les trajectoires bien optimales, il va vraiment te faire chier. Donc voilà, une de mes stratégies préférées, c'est de faire Mario Bros avec l'adversaire, puisque t'as qu'un seul adversaire à chaque fois, c'est du 1 contre 1. Donc Mario Bros, c'est tu prends un tremplin, tu te décales un peu sur la gauche et tu te démarres pour atterrir pile sur sa gueule.
Mon dieu.
Voilà, ça c'est... Et alors ça le fait béton, il perd genre 5 ou 10 secondes, et c'est bon. Voilà, donc c'est ma stratégie perso, hein, je... Voilà.
Alors, petit point amusant avec 1080, c'est que à l'intérieur du jeu apparaissaient des vraies marques.
Oui. C'est un des premiers jeux où, effectivement, il y avait des vraies marques. De snowboard et autres, d'ailleurs.
Bah, il y en avait aussi dans 1080 degrés. Oui. Dans Wave Race, pardon.
Dans Wave Race Blue Storm, il y en a aussi, puisque
dans 64.
Il y a... Et Wave Race 64 aussi, mais dans Wave Race Blue Storm, il y a un truc qui est sponsorisé par Dr. Pepper. Et en fait, moi, quand j'étais petit, je ne l'avais pas vu, parce qu'avec une image composite, en fait, tu n'arrives pas à le lire. Mais là, j'y ai rejoué sur le Framemeister en HD, machin, il y a bien écrit bien Dr. Pepper sur le côté du truc.
C'est vrai que les mecs avaient payé un Yamaha placement produit que tu
ça.
Vois pas.
Bah ouais, non mais c'est ça, mais c'est... Oui, mais à l'époque, tu vois, à l'époque, c'est comme ça, quoi. Bref, juste une toute petite anecdote que j'ai envie de raconter sur 1080 Snowboarding, parce que c'est une anecdote qui me tient à cœur, parce que j'étais petit, j'étais pas grand.
Comme Galaxies.
C'est ça, non mais j'avais que 14-15 ans, donc du coup, au moment où la sortie...
Comme Galaxies, tous les
voilà.
Et bien justement. J'étais avec Cory Grand, du forum du dojo, qui ne vient plus depuis très longtemps, mais que je côtoie toujours. Cory Grand, qui avait eu le jeu, donc c'est lui qui avait le jeu, en fait, donc j'allais chez lui pour jouer à 1080 Snowboarding, on faisait du deux joueurs, on faisait machin, on s'éclatait, c'était la folie.
Tu squattais.
Je squattais comme un porc, mais on avait bien saigné le jeu, on devait faire Ouais, tous les samedis après-midi, on devait faire une bonne heure et demie de 1080 snowboarding avant d'enchaîner sur un GoldenEye, un Mario Party, un truc comme ça, tu vois, mais on était bien à fond. Et on avait vu que le magazine français Nintendo Mag, magazine officiel, hein, organisait un concours sur, je crois que c'est Forest Village, qui est en fait un des niveaux pas trop compliqués, qui est à peu près en ligne droite, basiquement avec une cascade gelée, de la poudreuse, machin, des forêts, tout ça. Un niveau bien sympathique. Et les mecs ont organisé un concours dans ce genre, allez, on va essayer de faire le meilleur... faut faire le meilleur temps possible, donc tu prends en photo ta télé dans le noir, tu sais, parce que tu es obligé de faire ça. J'ai pas de Polaroid et tout, donc il a fallu acheter un appareil photo jetable, il a fallu défoncer les 23 premières prises, tu vois, parce que bah, ça servait à rien et tout. Et donc avec Corrigan, on se dit, vas-y, c'est bon, on prend l'après-midi, on essaie de faire un score de ouf. Et je crois qu'on a terminé avec un score qui était vraiment pas dégueulasse, on a fait genre une, je crois que c'est une 09 quelque chose, je me souviens pas du quelque chose, mais je sais qu'on a fait une 09. Je me souviens du 1-0-9. Bref, donc on fait ça et on se dit, putain, franchement, si on gagne pas, là, c'est vraiment, c'est chambé parce que on voit pas comment descendre le temps, tu vois. 1-0-9, on est vraiment au bout du bout, on a réussi je sais pas combien de fois, on n'a jamais réussi à descendre en dessous de ça.
Les super plays, le début.
Le super play, tu vois, le super player.
Et il y a un Asiate qui a fait 1-0-8.
Non, attends, on prend en photo le truc, donc on prend en photo l'écran, on va faire développer les photos. On paye pour développer les photos, parce que voilà...
Ah, je vois venir le non facturé juste sur le temps.
Non, attends, on fait ça, on met le petit bon au concours, ça fait que tu découpes un truc dans le magazine, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse et tout, je sais plus ce que tu pouvais gagner, mais tu pouvais gagner des trucs cool, quoi. Puis au moins, t'avais ton nom dans le magazine qui disait, ah, machin, vous avez gagné ça, machin, enfin, vous avez tel score. On met l'adresse et tout, on met un timbre, donc on paye pour le timbre aussi, donc là, on est à, genre... On devait déjà être à 30-40 francs, tu vois, développant des photos plus le timbre. On devait pas être loin de ça. On le poste, on attend le Nintendo Mag suivant avec grande impatience, il y a le résultat du concours. Et là, tous les mecs ont fait en dessous de la minute. Et nous, on était tellement dégoûtés, parce qu'on s'est dit, putain, comment ils ont fait, quoi. Et à ce jour, je n'ai jamais regardé un seul record du monde de Forest Village, parce que je veux pas savoir comment on fait pour avoir le...
et du coup,
moi,
tu t'es désabonné.
Dans ma tête. Voilà, j'ai rage quit. J'ai rage quit Nintendo Mag. Non, le pire, c'est qu'on a acheté le Nintendo Mag suivant, parce que je n'étais pas abonné, hein, faut pas déconner. On a acheté le Nintendo Mag suivant juste pour avoir les résultats du concours. Et on s'est rendu compte qu'on était même pas dedans, et qu'on était même bon, enfin voilà, on devait être 40e, 50e, un truc comme ça, quoi. Bref, c'était mon anecdote amusante sur 1080 Snowboarding. Excusez. Donc on va enchaîner sur 1080 Avalanche, sur GameCube, que lui, vous connaissez peut-être beaucoup mieux du coup. Antique, parce que là, t'as dû y jouer quand t'étais petit.
Ben, je pense que 1080 degrés Avalanche s'est passé bien plus inaperçu que 1080 degrés Snowboarding, pour le coup.
Ah ouais, parce que moi, c'est un jeu qui m'a bien fait triper, hein.
À l'époque, les jeux de snow et compagnie, c'était déjà un peu passé de mode. Hein.
Déjà, il y avait SSX. Et SSX était sorti sur GameCube.
Oui.
Donc, il était pas seul. Et en plus, je crois qu'il est sorti assez longtemps après la sortie de la GameCube, si je me trompe pas.
Oui, c'était contrairement au Everest Blue Storm qui était un jeu de lancement, en tout cas au moins en Europe, je sais pas si c'est le cas au Japon, mais il me semble qu'au Japon aussi c'était Everest Blue Storm, Super Monkey Ball, Luigi's Mansion,
ouais,
le trio gagnant, moi il me semble aussi. Hein. Donc, alors 1080 Avalanche par contre corrige les 2-3 petits défauts de gameplay de 1080 Snowboarding, notamment le fait que bah, les stuns servent enfin à quelque chose dans les courses.
Il est sorti en 2003.
Voilà, donc il est sorti quand même pas si tardivement que ça, mais SSX était déjà sorti.
Anecdote amusante. Il était développé par NST. Et NST, c'est pas un studio mondial. Enfin, je sais pas si vous connaissez le studio, mais en gros, c'est
une maladie sexuellement transmissible.
C'est ça, ouais. C'est le seul studio américain de Nintendo.
Ah, ce qu'on fait Geist.
Il me semble pas. C'est eux, eux qui auraient dû faire Project Hammer.
Ah, oui.
Et ils sont responsables des Mario vs Donkey Kong, notamment, et de Metroid Prime Hunters.
Ouh, joli palmarès.
Okay. Ça reste sur leur dernier jeu développé étant Super Mario Maker pour Nintendo 3DS. Voilà.
Qui est un portage de la version Wii U.
Donc c'est un jeu qui a été réalisé par des Américains.
Oui, mais qui est bien. Enfin, qui est pas si mal.
Américains qui auront aussi fait Waverest Blue Storm, du coup. On en reviendra après.
Voilà, on en parlera juste après.
Cette petite mention là où 1080 degrés Snowboarding a été fait par EAD comme une grosse majorité des jeux de console selon Nintendo.
Effectivement. Mais donc, du coup, 1080 Avalanche. Ben, correction de plein tout un tas de trucs. C'est que là maintenant les. Alors t'as toujours une jauge de damage, donc tu peux. Si tu te gaufres trop de fois dans une course, t'es toujours éliminé. Sauf que tu as un moyen de contrer ça. Si tu fais suffisamment de stuns, si tu fais suffisamment de figures, qui sont d'ailleurs beaucoup plus simples à réaliser que sur la version N64, c'est simple, j'ai jamais réussi à faire un 1080 sur N64. 720 avec un coup de bol, de temps en temps, ça passait. Mais 1080, j'ai jamais réussi à le faire. C'est ultra compliqué. Là, les mecs ont simplifié, ils ont dit, voilà, tu maintiens R, tu fais tourner le stick, tu tournes. Voilà, point. Donc c'est pas compliqué, plus tu tournes, plus ça fait des tours.
Et tu t'exploses la main comme dans Mario Party.
Non, parce que t'es pas obligé de tourner très vite. Tu peux tourner un peu plus lentement que ça. Mais oui, dans le principe, c'est un peu ça. Mais tu t'es pas obligé de tourner très vite. Et en plus, avec la manette GameCube, c'est quand même un peu plus simple et tu te pètes un peu moins les doigts. Bref, donc, ta barre de stun, en fait, chaque fois que tu fais une stun, ça remplit une barre de power. Et quand la barre de power est au bout, ton personnage se met à clignoter. Donc, il se met à être bleu vif, magnifique, tu vois, être translucide et tout. Et à ce moment-là, si tu prends un gadin, non seulement ça ne te ralentit pas, c'est-à-dire que tu vois ton personnage qui fait 3 tours sur lui-même, mais il reprend exactement la même vitesse, sa trajectoire. Tu prends pas de damage, donc ta barre de dommage ne se vide pas, donc tu prends véritablement pas de dommage. Et en plus, si tu croises ton adversaire, puisque t'as toujours un seul adversaire en mode championnat, t'as toujours... tu cours avec un seul adversaire à tes côtés, et bien, si tu t'approches de lui et que t'as cette espèce de power-up sur Blast, le mec lui met une grosse patate et il se casse la gueule. Et du coup, ça, c'est cool. Parce que tu peux vraiment rattraper une course et aller baiser le mec d'en face super facilement. Tu fais des stuns, là, t'as vraiment intérêt à faire énormément de stuns en début de course pour passer tout de suite en power-up, pour essayer de bousculer tout de suite ton adversaire, pour qu'il se casse tout de suite la gueule, pour gagner 5-10 secondes d'avance et essayer d'arriver jusqu'au bout. Donc là, t'as enfin un gameplay qui commence à ressembler à quelque chose, c'est-à-dire au sens où t'as pas juste d'un côté un gameplay course, d'un côté un gameplay cascade, t'as vraiment les deux en un, et t'es vraiment encouragé au cours du jeu à prendre des risques, parce que non seulement prendre des risques te permet d'aller prendre des raccourcis beaucoup plus facilement, il y a un système de grind qui est mis en place dans 1080 Avalanche qui fait que bah, tu peux grinder sur les troncs d'arbres ou sur des glissières ou des trucs comme ça, un peu à la façon d'un Tony Hawk finalement. Okay. Et ça va souvent ouvrir des raccourcis, en plus de remplir ta jauge de power-up. Donc t'as vachement plus intérêt dans ce jeu-là à avoir du power-up, pour bousculer l'adversaire, pour pas te prendre de dommages, voilà. C'est un peu plus intéressant, je trouve, d'un point de vue gameplay, 1080 Avalanche. Enfin, en tout cas, je trouve que le jeu marche très bien, j'en ai fait pas mal cet après-midi aussi, et je peux vous garantir qu'on retrouve des sensations, c'est agréable, tout ça. Franchement, ça passe bien. Ça passe même très très bien. Et je me souviens presque de tous les raccourcis de toutes les courses, ce qui fait super plaisir.
C'est ta mémoire.
Ah mais, c'est infaillible, hein.
C'est les traumatismes, ça.
Mais c'est pas ça, c'est que je me souvenais dans une course, il y avait un passage en hauteur où il fallait vraiment prendre complètement à gauche, c'était un peu hallucinant, ça fallait prendre complètement à gauche pour aller prendre un truc, pour aller sauter par-dessus une crevasse, puis continuer à faire des sauts comme ça, pour aller couper une énorme partie de la course, alors que l'autre connard de CPU, il passe tout en bas, dans la crevasse, dans le truc de glace, machin. Et donc je me suis fait battre, je sais pas, 3, 4, 5 fois comme ça, en disant, mais merde, il y avait bien un raccourci à cet endroit. Et à un moment, j'ai fini par le retrouver, et alors là, je lui ai mis 10 secondes dans la vue, quoi. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, donc 1080 Avalanche, c'est quand même plus facile, je trouve, à conseiller que 1080 Snowboarding, pour toutes ces raisons-là, le jeu est fun. En plus, le jeu a un défaut rigolo en version PAL, c'est que le 60 Hz, ça a été tellement optimisé qu'il va plus vite que la version NTSC.
Oh putain.
Donc on a une espèce de mode turbo, le jeu va super vite en 60 Hz, c'est juste affolant. Et vous pouvez aller regarder les records du monde de 1080 Avalanche, en fait, il y a deux catégories. Il y a la catégorie NTSC et la catégorie PAL 60. Et en fait, la catégorie PAL 60, il y a genre, tous les scores ont genre 10 secondes de moins que la catégorie NTSC. Oui, c'est la folie. Non, mais okay. Quand ils disent qu'ils optimisent, les mecs, ils rigolent pas, tu vois.
Et on fait du bon boulot, hein.
Mais attends. C'est quand même assez ouf, je trouve. Enfin, voilà, c'est assez rigolo, et en plus il y a plein de bonus marrants à débloquer. Il y a une planche roquette qui va super vite, il y a une planche pingouin, il y a une planche pinceau qui laisse en fait une espèce de trace de peinture dégueulasse derrière toi. T'as une manette de NES, tu peux rider une manette de NES, si ça c'est pas la classe, voilà. Et t'as plein de costumes alternatifs pour les persos. Alors c'est pas évident à débloquer parce que je crois qu'il faut finir le jeu en mode expert avec tous les persos, ce qui est pas évident du tout. Mais voilà,
la manette de NES est dans le Avalanche.
Okay. La manette de NES est dans le Avalanche.
D'accord, ouais, je l'aurais mis sur 64, dans mes souvenirs.
Elle est peut-être aussi sur 64, hein, c'est possible.
Je sais plus, ouais.
Je sais que le pingouin était déjà sur 64. Sur 64, t'avais
un mec
tout en or, et t'avais une planche pingouin, en fait. C'est une planche qui ressemble à un pingouin. Et du coup, elle fait chaque fois que tu tournes et tout, ça, du coup, tu l'enlèves très vite parce que c'est chiant. Mais voilà, mais t'as plein de costumes alternatifs à la con en fait pour les riders et des trucs assez marrants. Genre, il y en a un, c'est un squelette pirate. C'est pas pourquoi, mais le mec se soit tapé un trip. Il y en a un, c'est un squelette pirate, ce costume alternatif. Voilà, donc. C'était la bonne époque où les mecs ridaient en débardeur, parce que voilà, par moins 4, paraît parfaitement logique.
Parce que pourquoi pas,
mais voilà, un jeu au gameplay beaucoup plus intéressant et qui passe bien, et avec le fameux niveau avalanche qui donne son nom au jeu, qui est le tout dernier niveau du mode expert, donc il faut déjà bien s'accrocher pour y aller, et dans lequel on te fait démarrer depuis un hélicoptère, et il y a une avalanche qui se déclenche au moment où ta board touche la neige, et en fait faut essayer d'aller plus vite que l'avalanche, et c'est quand même super fun à jouer.
Et si t'y arrives pas, tu meurs comme un caca.
Tu meurs comme une merde, et oui. Et si t'y arrives, t'as le droit de faire un méga saut pour réatterrir pile dans l'hélicoptère.
Ah oui, c'est réaliste.
C'est super réaliste. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait tu fais le saut, tu vois, les deux portes de l'hélicoptère sont ouvertes, tu vois, de chaque côté. Donc tu fais un saut, tu atterris dans l'hélicoptère, mais avec l'inertie, logiquement, tu te recasses la gueule juste derrière. Tu vois. C'est pas possible, mais à ce moment-là, ils coupent la scène cinématique, les mecs, ils sont pas cons. Enfin bref.
Le tout sans le faire découper par les pales. Hein.
Ah bah attends, tu sautes à la bonne hauteur, évidemment, puis l'hélicoptère se penche un petit peu pour que tu puisses... voilà, ils se démerdent, les mecs sont pas cons non plus. Mais voilà, un jeu très fun, franchement, moi je peux le recommander. C'est rigolo. Alors je sais pas si c'est aussi marrant qu'un SSX, j'ai peu de points de comparaison, j'ai très peu joué avec SSX en fait.
Bah, c'est de l'arcade pure pour moi, SSX. Hein.
Bah là...
Tu vas pouvoir faire... 1080 c'est la base quoi, le 3072 il est plus accessible. Tu vois.
D'accord, je vois.
De chieur.
Parce que là 1080 c'est pareil, t'as le même principe de niveau très organique en fait, qui sont pas des vraies pistes, il me semble que dans SSX c'est des vraies pistes. T'as pas de...
Oui, je crois que c'est plutôt des vraies pistes assez aménagées. En vrai, le concept de...
Ouais, il y a un flipper dans SSX. Hein. Ouais.
Mais c'est aménagé un flipper. Je te rappelle que dans 1080, il y a quand même un niveau où tu démarres dans une ville en haut, et à un moment, tu traverses un restaurant. Voilà, il est au milieu de la piste.
C'est leur piste.
Non, mais c'est leur piste. Et après, tu atterris dans un parking qui est complètement spiralé, donc un parking pas du tout réaliste. Et voilà, c'est... Donc c'est organique vite fait, quand même.
Après, yes. pour le côté organiste hors piste, il y a Steep de Ubisoft qui a vraiment poussé le concept loin, sachant que c'est un monde ouvert, en fait, ce jeu.
D'accord.
Est-ce qu'un monde ouvert en pente, ça marche?
Bah, tu fais de la montagne, quoi.
Ouais, mais comment tu remontes? Tu te galères.
Je crois que tu peux appeler un hélico.
Les temps de chargement sont déguisés en remontée mécanique.
Le truc malin.
Au passage, je remonte à pied, et puis il faut manger des piments pour pas avoir froid.
Oui, ouais. Ça c'est bien, ça. Et t'as un paravoile pour pas te galérer avec ton putain de bouclier. Bref,
la montagne c'est sympa, mais parlons un peu de la mer.
Ah oui, la mer. Wave race.
T'aurais pu nous faire la montagne, ça vous gagne hein, quand même.
Non, parce qu'après il aurait été obligé de faire le cheval, je le préfère en lasagne.
Putain.
C'est parti des
sujets. Et la Bretagne, ça vous gagne aussi.
Ah non, pas ça. S'il vous plaît.
Juste une toute petite parenthèse, Aquaquack qui nous écoute, t'inquiète pas, le compte, on corrige ça dans pas longtemps.
Le compte ?
Le compte, oui, j'ai fait de la merde avec le compte Twitter, je vous expliquerai.
Je veux pas savoir ce que t'as fait. je suis pas sûr d'avoir envie de...
Drosgar va te taper sur les doigts.
C'est ça.
C'est possible, hein. C'est lui notre CM, hein, je te rappelle.
Je suis stagiaire, moi.
Hey, c'est parce que t'es nouveau, hein, ici. Hein.
Bah ben oui. C'est un petit nouveau, ça fait un an et demi qu'il partage pas d'émission, tout va bien.
Déjà ?
T'es un nouveau à partir de 2 ans en fait, tu vois. De 2 ans,
bah attends, il est plus récent que Galaxis ?
T'es plus un nouveau, t'es un junior. Enfin, je vous explique.
T'es plus stagiaire en tout cas.
Développeur junior.
C'est ça,
t'es plus stagiaire.
Maître chef de projet senior, ça c'est. je me branle la nouille dans mon bureau.
Nice.
Ça bombe. Ben,
bref, hop. À la flotte. Donc, Wave Race. Alors, je ne sais pas si Wave Race 64 est sorti en même temps que la N64, j'ai un gros doute là-dessus, mais il a dû sortir très peu de temps après. Je sais qu'en Europe, il est sorti en même temps que la machine.
En même temps, en France, on a eu la machine un an après tout le monde.
Oui, parce que Nintendo France était en train de se restructurer, mais il me semble que, même pour la sortie américaine, Wave Race 64 devait faire partir du line-up de sortie.
Ouais, il avait été annoncé avant. Sauf que, avant la sortie, c'était un jeu avec des bateaux. Et pas avec des jet skis.
Attendez. Oui, vrai, 64 est le second épisode de la série.
Oui, parce que le premier est sur Game Boy.
Je ne savais pas. Et, c'était, et apparemment, on l'appelait à l'origine F-Zero sur de l'eau.
Bref. On est quand même très loin du gameplay de F-Zero. Bon, bref, Wave Race 64, c'est un petit peu la grosse démo technique de la N64, parce qu'on n'avait jamais vu des vagues aussi réalistes.
Bonjour, on va vous apprendre à faire de l'eau.
C'est un peu ça. Sachant que c'est quand même une... Enfin, c'est le genre de jeu qui n'est possible que parce que tout d'un coup, tu as de la 3D, que tu peux faire de la 3D accessible. C'est typiquement le genre de jeu qui est impossible à faire en 2D. Donc là, vraiment...
Bon, on parle de la version Game Boy ou...
Non,
je vais voir une vidéo. N'existait pas.
Non, la version Game Boy est atroce. C'est en vue du dessus.
Je regarde la jaquette, c'est absolument abominable.
Ah non, mais Wave Race sur Game Boy, c'est un truc... Je comprends pas ce jeu.
Et sinon, sinon, le jeu est sorti 3 mois après la console, hein, au Japon.
D'accord, au Japon. Mais je pense que du coup, aux États-Unis, il a dû sortir en même temps que la console.
C'est possible.
Bref, donc ce qui est impressionnant, en fait, c'est tout d'un coup, t'as un monde en 3D. Alors effectivement, très low poly, hein, tu regardes les pilotes, leurs bras, c'est à peu près 3 triangles.
C'est pas pire que les mecs en 2D de Mario Kart 64. Hein.
Oui, c'est pas pire que ça, au moins les mecs sont en 3D, mais c'est vrai que les modèles sont quand même super low poly. Par contre, du coup, ce qui est pas low poly, c'est la flotte. Là, t'as vraiment des effets d'eau qui sont, on va pas dire réalistes.
Pour l'époque, on en voyait grave.
Aujourd'hui encore, reste quand même assez impressionnant. Hein.
Bah, pour ce que j'ai vu, ça tenait plutôt la route. Hein.
Bah, t'as des belles vagues.
On n'est pas devant Sea of Thieves.
Non, t'es pas devant un truc, t'es pas devant une mer ultra réaliste, mais t'as quand même des beaux effets de vagues. Avec des petits reflets sympas.
Oui, l'eau est transparente en fait.
L'eau est transparente, du coup t'as de la transparence qui n'est pas forcément quelque chose d'aussi évident à gérer que ça. Hein, coucou la Saturne. Non mais j'aime bien, ça me fait plaisir. Et en plus tu as cet effet dont on parlait un petit peu avant, c'est-à-dire l'opacité de l'eau change en fonction du temps. C'est-à-dire que quand il fait mauvais, quand il pleut et tout ça, alors sur certaines courses il pleut systématiquement en fait. Wave Race 64 c'est un jeu qui est très...
Les courses qui se passent en Bretagne.
C'est un peu ça. Mais voilà, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de conditions météo. En fait, les conditions météo sont attachées à la course dans laquelle tu es. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as des courses qui se passent par mauvais temps. De toute façon, elles se passeront par mauvais temps tout le temps, quoi qu'il arrive. Mais dans ces niveaux-là, l'eau est un peu plus opaque et elle est très transparente dès que tu as du soleil, en fait, tout bêtement. Et ça reste un jeu je trouve qu'il marche plutôt bien en termes de gameplay. C'est-à-dire que le principe, c'est que il y a un tracé avec des bouées. Il faut passer à gauche des bouées jaunes et à droite des bouées rouges. Et en fait, le niveau de difficulté, quand tu augmentes le niveau de difficulté, c'est toujours les mêmes courses. Mais l'emplacement des bouées va changer. Il va y en avoir un peu plus. Elles vont être un peu plus difficiles à passer. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un peu plus de slalom entre les bouées pour y arriver.
La difficulté, c'est dans les manœuvres au final. C'est slalom. Mmh.
Le slalom, et puis de temps en temps, les mecs te placent le lac de Wave Race 64. Quand tu le fais en easy, il y a genre une grosse dizaine de bouées. Et il n'y a pas de bouées. Il y a un endroit où il y a énormément de plots en fait, que tu peux te prendre dans la gueule. Il n'y a pas de bouées à cet endroit-là. Tu peux passer au large. Et quand tu es en expert, il faut passer au milieu des plots. Donc il faut trouver pile la bonne trajectoire pour arriver à prendre toutes les bouées et passer au milieu des plots. Donc c'est quand même... ça fait un peu mal au cul. C'est un peu compliqué. Mais là encore, on retrouve cette espèce de dichotomie un peu bizarre, c'est-à-dire que les stuns ne servent vraiment pas à grand-chose en mode course. Ce qui est quand même... Enfin, moi, je maintiens que c'est quand même très chiant, quoi, comme constatation. C'est-à-dire que tu te retrouves à, finalement, le plus important, c'est de faire du slalom en télébouée. Quand t'as passé 5 ou 6 bouées, t'es en... ta vitesse de pointe augmente, en fait, au fur et à mesure que tu passes les bouées.
Là, pour le coup, il y a le turbo, quoi.
Non, t'as pas de turbo dans Wave Race 64.
Ok, autant pour moi, oui.
Donc t'as pas de... Enfin, en tout cas, je sais pas. S'il y a un turbo, ça fait 20 ans que ma vie est un mensonge. Mais non, pour moi, il n'y a pas de turbo.
Le turbo, il est sur GameCube.
Le turbo est sur GameCube. Donc là, en fait, tu passes les bouées, mais simplement, par défaut, je sais pas, ton véhicule a fait du 80 km/h en vitesse de pointe.
Oui, t'as droit à ton nombre d'erreurs et basta.
T'as le droit à un nombre d'erreurs, et en fait, quand tu arrives à franchir 5 bouées d'affilée, tout d'un coup, tu montes à 100 km/h de vitesse de pointe.
You've got boost power.
C'est peut-être pour ça qu'on disait le F-Zero sur l'eau, d'ailleurs.
En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un annonceur comme dans F-Zero, et il est à peu près aussi cheap. Hein.
Oui, you are 3 seconds behind.
Ce que je disais, il me fait penser aux annonceurs des jeux d'arcade Sega. Je suis très client de ce genre de conneries.
Qui explique pourquoi Sega a développé F-Zero GX.
Yeah.
Ils ont fait la... ils avaient l'annonceur chip, ils ont fait le reste du jeu.
Tout s'explique maintenant.
Nous avons enfin l'explication. Donc, Wave Race 64, c'est plutôt un bon jeu. Enfin, moi, je trouve que ça tient encore pas mal la route.
Bah, pour y avoir fait un petit quelques courses de championnat hier, c'était très agréable. Enfin, ça se prenait vraiment en main, c'était plutôt maniable. J'ai eu des petits problèmes d'émulation, mais j'avais pas l'impression de jouer à un jeu 64 avec les maniabilités qu'on connaît pour certains. C'était antique. Très agréable. Ouais, mais y a justement, il n'y avait pas ce côté antique, c'était prise en main rapide, c'était arcade, c'était fun. J'ai passé un bon moment, quoi.
Oui, surtout que c'est typiquement, on parle d'arcade, mais c'est vrai que c'est l'époque où tu pouvais encore vendre un jeu d'arcade à jouer dans le salon. Parce que Wave Race, faut être honnête. Hein,
c'était encore l'époque où il y avait des jeux d'arcade qui marchaient. Hein.
Oui, c'est un peu ça aussi.
Commençons par ça déjà.
Commençons par ça, ouais, mais tu pouvais sortir un jeu plein pot à 400 balles en magasin qui était un jeu purement d'arcade qui se finit en façon Crazy Taxi, quoi, qu'en 45 minutes tu peux finir. Alors là, il faut peut-être un peu plus de temps que ça pour Wave Race, mais c'est pas un jeu dans lequel il y a beaucoup de modes de jeu, il y a beaucoup de machin. C'est vraiment une démo technique, un jeu arcade. Je dirais qu'en une grosse après-midi, il y a moyen de le torcher. En tout cas, le mode championnat. Après, évidemment, t'as le fait de faire du time attack et des trucs comme ça, mais... Bon, voilà, c'est le jeu vite fait, bien fait, mais qui marche bien, qui se prend pas trop au sérieux, plutôt efficace dans le principe, pas si évident que ça... Enfin, voilà, quand tu commences à attaquer les courses en mode expert, ça va, quoi, faut s'accrocher.
C'est comme d'hab, quoi, c'est vite compris, et puis à maîtriser, il y a un peu de taf, quoi.
Exactement. Sauf que là, t'as un bouton pour accélérer.
Exactement. Et il y a des vagues.
Et il y a des vagues. Et finalement, le gameplay est un peu original aussi parce que tu peux pas vraiment tourner quand t'es en l'air. Faut vraiment que tu sois dans l'eau pour pouvoir tourner. Donc ça veut dire que dès que tu commences à prendre des vagues, tu vas avoir beaucoup plus de mal à contrôler ta trajectoire. Faut falloir un peu plus anticiper, se pencher.
Mais d'ailleurs, le fait qu'il y ait des vagues et qu'elles te font descendre et monter assez haut fait que tu peux aussi passer des obstacles en prenant bien la vague, quoi.
Oui, exactement. Il y a même un niveau où effectivement t'as des vagues qui sont. Je me demande si c'est pas tout précalculé les vagues, je suis pas certain qu'elles soient vraiment en temps réel et random.
Je me suis posé la question, je t'avoue.
Parce que moi, il me semble qu'à chaque tour sur je sais plus quel niveau, un des derniers, je crois que c'était le glacier, il y a un endroit où il y a une espèce de langue de terre en fait qui dépasse, et en fait t'as toujours une vague devant, ouais, à tous les tours. Donc.
Après, peut-être qu'il y a des vagues qui sont programmées justement pour te permettre de choper les raccourcis, quoi.
C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible du tout.
Et comme quoi, le fait qu'on se pose la question, ça montre encore une fois que l'effet, il est vraiment pas dégueulasse.
Non, l'effet est pas dégueulasse, et il est super agréable à jouer. Alors évidemment, aujourd'hui, tu vois que la distance d'affichage des vagues, elle est un peu bidon, quoi.
Oui.
Que quand tu vois un mec qui est au loin, et en fait, il saute, mais il n'y a rien en dessous, tu vois, donc tu sais qu'il est sur une vague, mais en fait, ouais, c'est pas vraiment une vague. Donc, ouais, c'est quand même pas, c'est pas parfait.
Et puis même le rendu des vagues est pas spécialement réaliste non plus. Enfin, tu sens que c'est de la 3D, quoi. Que ça a été fait à la main, que c'est pas géré intégralement par du calcul et qu'il y a eu un peu d'ajustement pour que ça ressemble à quelque chose. Enfin, pour que ça soit. Enfin, ça mette pas la console à genoux et que tout en ressemblant à quelque chose.
Oui, c'est une espèce de semi-précalculé. C'est-à-dire que tu sais qu'il y en a une bonne partie des vagues qui doivent être précalculées. Il doit y avoir 3, 4, 5 modèles de vagues différents, finalement. Et la physique de l'eau est faite toujours à peu près de la même manière. Mais tu as aussi des niveaux un petit peu plus impressionnants. Il y a notamment Sunny Beach, où tu as la marée. Qui est quand même un élément assez marrant. C'est-à-dire qu'au premier tour, la marée est haute. Donc tu as tout un tas de raccourcis et de choses comme ça qui n'existent pas, et au fur et à mesure de la course, au deuxième tour, la marée descend, et enfin, t'es à marée basse, véritablement au troisième tour.
Ce qui et fait là, que... t'es sur le sable.
Et là, t'es sur le sable, dans certains virages, faut que tu les prennes complètement différemment. Donc du coup, tu as une course qui change en fonction des tours, ce qui est quand même assez novateur comme concept, hein, 1996-97.
Surtout, c'est un truc qui se voit pas trop, parce qu'au final, tu fais ton tour, et puis tu reviens sur les endroits où il y avait les rochers, où il y avait les maisons sur pilotis. J'ai dit, mais y a un truc qui a changé, c'est pas normal.
Et en fait, c'est au troisième tour, quand tu vois les grosses vagues qui commencent à se retirer complètement, tu dis, ah oui, d'accord, ok, la marée baisse, en fait.
Au deuxième, ça se voyait déjà, mais... Ça t'ouvre d'autres opportunités de trajet, où tu peux passer entre les maisons sur pilotis, ce qui n'était pas le cas avant, le tremplin, il est plus accessible, enfin, c'est des petits détails, quoi.
Puis tout d'un coup, tu te retrouves avec le bateau qui était au départ, que tu pouvais passer dessus, parce que là, là maintenant, il faut prendre le tremplin pour passer par-dessus le bateau, parce que sinon, bah, tu te le prends dans la mouille, parce qu'effectivement, la marée a baissé, mais le bateau, lui, reste à peu près au même endroit. Bref. C'est pas, voilà, je trouve que c'est pas inintéressant, il y a quelques possibilités de gameplay, ça reste un jeu super arcade, mais très accessible, et vachement agréable.
Puis voilà, qui était avant tout un peu aussi une démo technique de la part des équipementaires de Nintendo, quoi.
Voilà. Qui met quand même une bonne race, je pense que... Enfin, en 1997, ça devait quand même être assez impressionnant.
Ah oui, je... clairement. Bah, le rendu, enfin, la partie aquatique, en tout cas, qui est quand même le cœur du jeu, oui, effectivement, elle marche plutôt bien, quoi.
Voilà, et le tout emballé dans un jeu qui n'est pas dégueulasse non plus. Ce qui fait quand même plaisir. Et ça nous amène à Wave Race Blue Storm, qui lui était la démo technique de la GameCube, qui est sorti en même temps que le GameCube. C'était un des jeux de lancement avec Luigi's Mansion et Super Monkey Ball.
Un jeu Sega, encore.
Un jeu, voilà. Un jeu Sega.
Non, mais tout est lié, hein. Tout est lié, les gars.
Je pense.
Non, c'est ça.
Et Wave Race Blue Storm qui reprend en fait les mêmes bases, mais pareil avec des petites améliorations de gameplay. Donc la principale, c'est le boost dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'était effectivement, là, quand tu as réussi à passer tes 5 bouées, bah, tu as un turbo. Un vrai turbo que tu peux utiliser pour turboter. Qui n'est pas évident à placer d'ailleurs, parce que si tu places un turbo dans une vague, bah, globalement, tu fais une chandelle et tu te casses la gueule. Voilà, c'est quand même. Ça fait plouf. Hein, c'est. Si tu places un turbo dans un creux de vague, pareil, hein, tu fais une chandelle dans l'autre sens et tu te vautres. Tu fais un turbo vers un rocher, bon, ça se passe pas très bien.
Le rocher gagne.
Oui, bah, c'est ça.
Spoiler alert,
le rocher gagne. Donc, les turbos, c'est quand même la partie la plus compliquée du jeu. C'est-à-dire, si tu les maîtrises bien et que tu sais exactement quand les placer, ça devient redoutable. Mais le truc, c'est que quand tu vas vite, c'est vraiment pas évident de tourner, et notamment de faire ce fameux slalom entre les bouées que tu fais toujours dans Wave Race Blue Storm.
Parce que ça, c'est un truc qui n'a pas changé pour le coup.
Voilà, et tu te retrouves dans un... Enfin, c'est pas évident, il faut vraiment savoir placer ses boosts, et il y a certaines courses où c'est pas évident du tout de placer ses boosts. Je pense notamment à la Razza Canal, qui se passe à Venise. Hein. Ça s'appelle la Razza Canal, mais ça se passe à Venise. Mais attends, tu rigoles, moi j'y étais à Venise, c'est exactement ça. Hein.
C'est vrai ?
Aux proportions près, c'est exactement ça.
Ah, les cons.
T'as le pont, t'as le fameux pont, je sais plus comment il s'appelle, le pont degli Innocenti, je crois qu'il s'appelle, qui est entre deux canaux. T'as l'île avec une énorme église, en fait, t'as une île qui fait une espèce de pointe, en fait, l'église est à la pointe, et à un moment t'arrives, t'es dessus, voilà, ça ressemble à Venise. Pas de doute là-dessus. Donc du coup, bah, c'est pas évident du tout, parce que là, t'as vraiment des canaux très serrés et tout ça, c'est pas super simple de naviguer dedans, mais si tu maîtrises un peu tes boosts, c'est là où tu vas vraiment y gagner. Deuxième petite nouveauté, c'est que les stunts servent enfin à quelque chose, parce que eux aussi remplissent ta barre de boost, ce qui fait plaisir. Donc ça veut dire que tu peux prendre des risques de temps en temps à faire, genre à faire le con, à te mettre debout sur ton jet ski, c'est un truc complètement réaliste.
Tu peux te mettre sur les bras.
Oui, voilà, tu peux faire... C'est des trucs super réalistes aussi quand il pense, c'est le mec qui lâche son. Il lâche le. Il se met. Il fait la chandelle en fait, enfin il fait le poirier sur son jet ski. D'ailleurs, quand tu fais ça et que tu te prends un rocher, t'as le mec qui va le dingue.
D'ailleurs, aussi un autre petit changement qu'on n'a pas noté, c'est qu'à la base, Wave Race, il y a que 4 personnages par course. Et oui. Que dans Blue Storm, ça passe à 8.
Ce qui fait que le jeu est beaucoup plus difficile d'ailleurs. Ah, parce que. Tu te retrouves en concurrence avec beaucoup plus de monde et les mecs sont un peu plus hargneux.
Bah, ça montre aussi que, en plus de la capacité à faire une eau un peu plus travaillée, ils ont réussi à d'afficher plus de personnes à l'écran. Je pense qu'une des limitations, une des raisons pour lesquelles il n'y a que 4 personnages dans VO64, qui en plus ne sont globalement que des modèles swap, parce qu'en gros on leur a changé leur combi, la couleur de leur jet ski et voilà.
Non, il y a le gros. Il y a le gros. Il y a le gros et il y a la meuf.
Il y a le gros et il y a la meuf, ouais. Exact. Mais il n'y a pas trop de différence, il n'y a pas de travail sur le visage. Vous voyez vrai Boostam de ce côté-là. Il y a une progression parce qu'il y a 8 personnages et surtout, bah, ils n'ont plus de casque cette fois.
Ce qui est extrêmement dangereux.
Oui, mais bon, c'est comme ne pas mettre de casque dans un monde d'Heroic Fantasy où les gens se battent avec des épées, tu vois.
Oui, pas avoir
qui
de bouclier.
Qui est frappé à la tête.
C'est ça. Mais tu sais, c'est le fameux truc des duels de sabre laser. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. En fait, les duels de sabres laser, c'est super facile de les gagner. Une fois que t'as les deux sabres laser qui sont l'un contre l'autre, t'éteins le tien, tu le rallumes très vite, tu passes derrière le sabre laser du mec et tu le découpes. Je suis désolé, c'est complètement con. Non mais personne ne pense jamais à ça. Voilà, mais je suis désolé, c'est quand même... C'est juste. Bref. Bon, mais effectivement, tu as des personnages qui sont un peu plus réalistes. Tu as de l'eau qui est plus réaliste. Tu as des décors qui sont beaucoup plus variés, beaucoup plus travaillés aussi. Parce que, faut être honnête, sur Wave Race 64, tu as de la plage avec des palmiers, tu as un glacier, tu as la forteresse. Tu as quand même des décors un petit peu travaillés, mais tu n'as pas une grosse variété. Sur Wave Race Blue Storm, tu as une plus grande variété. Et surtout, tu as les conditions météo qui vont changer. C'est une autre nouveauté, c'est-à-dire que quand tu attaques un championnat, on te donne en fait la météo sur les deux ou trois prochains jours. Et donc on dit, aujourd'hui il fera beau, demain il pleuvra, après-demain il y aura de l'orage, et ainsi de suite. Et en fait, tu peux choisir la course, tu peux choisir de faire certaines courses dans certaines conditions météo. Et ça va vraiment parfois radicalement changer la façon dont tu vas envisager la course. Parce que par défaut, quand il fait beau dans le port, par exemple, dans la ville, je crois que c'est Port City, un truc comme ça, Harbor City, encore plus original. Par défaut, t'as des vagues qui font à peu près 1 mètre. Quand il y a de l'orage, les vagues font jusqu'à 3 mètres. Donc là, tu vas peut-être le faire quand il fait beau et ensoleillé, tu vois, cette course-là, parce qu'elle est déjà pas si évidente que ça. Mais alors, avec des grosses vagues, avec la visibilité réduite, parce que t'as l'eau qui s'écrase, en fait, sur la caméra, t'as une magnifique shader qui fait un effet de pluie sur la caméra. Et en plus, le fait de gérer des grosses vagues dans des couloirs un peu contigus, dans des machins, enfin, c'est vraiment pas si évident que ça du tout à faire. Donc t'as plus intérêt à tacler celle-là un jour ensoleillé. Par contre, il y a d'autres courses. Je pense au lac dont on parlait juste avant l'émission. Le principe du lac, c'est qu'en fait, t'as pas de vagues. C'est vraiment de l'eau complètement plate. Mais quand c'est ensoleillé, t'as plein de rochers affleurants, en fait. Et si tu te les prends, tu te fais bien mal. Et dès qu'il y a de l'orage, en réalité, le niveau de l'eau monte, et donc du coup, ces rochers qui étaient affleurants, ils sont plus du tout là, donc tu peux passer au travers. Donc ça ouvre des trajectoires complètement différentes en fonction de la météo. Et ça, c'est quand même une belle nouveauté aussi, qui est vraiment intéressante. Et de la même manière, t'as plusieurs modes de difficulté, donc je crois que c'est Easy, Medium, Expert, un truc comme ça. Ça doit être à peu près les mêmes que sur Wave Race 64, en fait. Où tu fais respectivement 5, puis 6, puis 7 courses.
Ok.
Je crois que c'est ça. Je l'ai fait vendredi dernier, j'ai fait tout le easy, j'ai fait tout le normal, mais je crois que j'ai pas fait le expert. Enfin, je me suis loupé au expert, parce que ça commence vraiment à être difficile. Et donc, les tracés vont complètement changer. Et c'est pas seulement juste les bouées qui sont réarrangées, c'est vraiment des tracés différents dans les mêmes décors. Tu reprends vraiment le décor de la première course, mais tout d'un coup, tu vas plus en face à un endroit, il faut faire un virage à gauche, et tu passes à un endroit complètement différent, avec des raccourcis différents, avec évidemment des emplacements de bouées différents, mais avec même des portions de décor complètement différentes que tu n'avais pas vues avant, et ainsi de suite. Et donc au final, tu as genre 7 décors différents, mais tu as 5 ou 6, enfin tu as 2 ou 3 variétés de courses par décor. À part le tout dernier où il n'y a qu'une seule variété parce qu'il est utilisé qu'une seule fois dans le mode expert, c'est la toute dernière course. Qui est dans un château en Écosse qui est inspiré d'un vrai château qui est pas visitable à marée haute en fait parce qu'il est noyé. Donc le fait ça se passe dans ce château là mais noyé. Alors pareil ça, j'ai été le voir.
Putain, ce le château-là.
C'est le palais de l'eau.
C'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que tu peux y aller qu'à marée basse et en fait une fois que tu y es, les mecs, le guide te met une espèce de chrono. Il te dit, mais t'as intérêt, enfin, dans une heure, il faut que tu sois barré, parce que sinon, tu peux plus partir. T'es marée haute, t'es coincé pendant 12 heures.
Est-ce qu'il y a le monstre du Loch Ness?
Non, c'est pas à côté du Loch Ness. Voilà, c'est triste, mais c'est pas à côté du Loch Ness.
Ça ferait un joli tremplin.
Ça ferait effectivement un joli tremplin. Voilà, donc Wave Race Blue Storm, ça fait plein de nouveautés, et ça fait un jeu qui, finalement, marche pas mal non plus. Je sais pas si ça vous a beaucoup marqué. Moi, c'est un jeu que j'ai... acheté, revendu beaucoup de fois en fait.
Oui, faut que tu racontes ça.
Vas-y, raconte l'histoire de ton Wave Race Blue Storm.
En fait, c'est le jeu que j'ai à chaque fois acheté d'occasion parce que j'avais envie d'y jouer. J'y ai joué, je l'ai fini. Après, je me suis dit, j'y rejouerai plus jamais. Je l'ai revendu. Et je l'ai fait ça, genre, je sais pas, 4 ou 5 fois en l'espace de 5 ans, quoi.
Il a boursicoté avec.
C'est presque ça. À chaque fois, j'arrivais à le revendre à peu près le prix que je l'avais acheté, donc je m'en foutais, tu vois. Et il y a un moment où j'ai fini par l'acheter, par me dire, ce coup-ci je le garde, et c'est donc, ça doit être le 7 ou 8e exemplaire que j'ai entre les mains.
Putain, quand même.
Voilà, mais c'est parce qu'à chaque fois je dis, je vais le vendre, ça va me faire 15 balles, puis à un moment je dis, mais en fait j'aimerais bien jouer parce que c'est rigolo, Et voilà, et c'est le genre de jeu, effectivement, comme tu le finis en à peu près une après-midi, voilà, ça t'occupe une après-midi, puis après, bah, je me dis, ouais, mais je vais pas y rejouer, paf, je le revends, et en fait, j'ai fini par, effectivement, j'ai eu le vendre et le racheter à peu près 8 fois.
Du coup, il a payé plus cher
que le jeu neuf.
Mais genre 3-4 fois plus cher, quoi.
Mais j'attends de l'avoir sous blister, en fait. Parce qu'un jour, je l'achèterai neuf. Peut-être.
Putain.
Ouais, c'est chaud. Bref, est-ce que vous avez, vous, des souvenirs à cause sur Everest Blue Storm? Parce que là, j'ai beaucoup parlé de Everest Blue Storm, je suis désolé, hein, j'ai
moi,
un gros résumé de gameplay.
Moi, pas tant que ça, parce que je l'ai acheté en occasion. J'y ai
pas
joué.
Vendu, tu l'as
et
racheté. Tu
et
l'as...
je l'ai revendu, mais moi, je l'ai pas racheté après. Parce qu'au final, je crois que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que moi, les jeux de sport, c'est pas trop mon kiff. C'était peut-être un peu trop réaliste pour moi. Mais tu vois, quand j'ai lancé Everest 64 hier... Mais j'étais pas perdu, parce que je fais « Ah, il y a les bouées !» Bon, bah c'est bon, je sais ce qu'il faut faire.
Tu t'es instantanément à la maison, pas de
mais,
problème.
Mais ça, par contre, c'est là où je me rends compte que le jeu a quand même eu... fonctionne bien, c'est que je me suis rappelé des règles en l'espace de 30 secondes. Ce qui est pas, en soi, pas déconnant, parce que un jeu, quand il y a un jeu, souvent tu te souviens des règles, mais là, c'est tellement simple et évident qu'en fait, j'avais pas besoin de plus que ça de me souvenir, tu vois, c'était quoi les subtilités,
ouais,
parce qu'il n'y en a pas tant que ça.
Réentraîné comme un fou.
Après, faut connaître un petit peu les trajectoires, faut quand même connaître
oui,
un petit
non,
peu les
mais
courses,
évidemment.
Mais ça revient assez vite aussi, hein. Je veux dire, je me suis rappelé d'un raccourci pas si évident de ça à se rappeler dans le niveau expert de la Chine ou je sais pas quoi sur Everest Blue Storm, quand j'étais en train de twitcher, mais vraiment en direct, je me suis dit, ah oui, tiens, il y avait un truc sur ce mur-là, puis je vais vers le mur. Et boum, je fais péter le mur, je sais, ah oui, voilà, c'est cool. Et ensuite, je me suis pris le mur d'après, parce qu'évidemment, j'avais pas anticipé le virage d'après, quand même. Mais voilà. Mecton, t'avais un éventuel
non.
souvenir ou... Non,
pas,
toi, pas du tout, Everest.
Non, enfin, si, j'aime beaucoup, mais à l'époque, les jeux de sport, pareil, c'était pas spécialement ma cam. Du coup, je suis un petit peu passé au-dessus à l'époque, j'avoue. Donc voilà, souvenir non, mais là ces dernières années, c'est le genre de truc, alors pour le coup je le fais sur émulateur, hein, j'avoue, qui se ressort de temps en temps sans déplaisir.
Bah, c'est un peu ça en fait, c'est le genre de jeu que tu peux très vite ressortir des cartons.
Yep, c'est ça.
C'est un instant fun, j'ai envie de dire, parce que finalement, ouais, il y a un accélérateur gauche-droite et puis le turbo, et voilà, merci, au revoir.
Non, c'est ça, ouais, ça aussi. Ouais, fun immédiat. Tu le résumes bien pour le coup.
Zergy, un petit quelque chose sur Wave Race, t'avais peut-être un peu plus retourné l'une ou l'autre des versions?
Bah non, pas du tout, non. Le Wave Race 64, je ne l'ai pas. Le Blue Storm, je l'ai acheté d'occasion et j'ai dû y jouer une fois ou deux.
Donc pas un gros fan ou... Est-ce qu'on t'a un peu donné envie d'y jouer ou c'est vraiment juste c'est pas ta cam et puis voilà?
Bah les jeux de sport, c'est pas forcément trop ma cam et puis... Bon, c'était plus pour essayer.
D'accord.
Tiens, juste au passage, Nintendo nous donne commission. J'ai Tenshin qui vient de m'envoyer une photo de... Bah, il vient de l'acheter sur 64. Ok. Donc, Nintin, vous nous devez une com. Hein.
Voilà, une petite com. Bah, c'est bien si on a donné envie à quelqu'un de jouer à Wave Race. Moi, je suis plutôt content. Je dis, au final, je dirais 1080. Un petit peu compliqué sur N64. Faut...
Bah, les jeux de Snow, ils sont tous pétés la gueule, donc voilà.
Voilà, 1080 Avalanche, je trouve, est beaucoup plus fun, mais apparemment, enfin, Antix a l'air de dire que SSX est quand même plus marrant. J'ai...
Oula, c'est bien trop lointain. Mais après, je pense que c'est plus le côté hors-course qui vous est plaît, à mon avis, essayer Step. Steep, je sais plus comment ça se dit, mais je crois qu'ils
sortent
sur Steep. Je crois qu'en plus, ils sortent sur Switch à un moment.
Ils devaient, mais on n'a pas eu de nouvelles.
Oui, bon, il a peut-être été buté dans un coin.
Il est tombé. Bah, ou alors, ça sera comme Watch Dogs, il sortira... avec 2 ans de retard, mais plein prix, hein, parce que c'est Ubisoft.
Sur une cartouche de 2 gigas.
Et avec 45 gigas en téléchargement.
Voilà. Ouais, parce qu'il y a tous les DLC.
Bah oui, bah évidemment. Voilà, donc, écoutez, on va se quitter là-dessus. J'étais assez content de faire une petite rétrospective sur 4 jeux, enfin 2 séries. Que personnellement j'ai beaucoup apprécié et qui... Voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu beaucoup parlé, hein, je suis désolé.
Toujours bien le rétro, toujours bien.
Mais le rétro, ça fait toujours plaisir. Là, je sentais qu'il y a 2-3 trucs qui vous plaisaient bien, c'est-à-dire que je vois bien que les Wave Race, tout ça, et tout le monde est là, genre, ouais, c'est quand même sympa,
c'est une époque que les petits jeunes, ils peuvent pas connaître.
Et qu'ils peuvent pas comprendre non plus, c'est qui con. Voilà. La semaine prochaine, en toute logique, nous devrions parler de Nintendo Labo.
Miaou.
Et si tout va bien, le complot mondial des chats, voilà. J'ai essayé sur le chat.
Voilà, est-ce qu'on aura ton chat comme invité?
Alors, comme on pourra avoir le chat comme expert, mais surtout, je pense que je vais faire un Twitch où je vais effectivement mettre un couteau sur la bataille de tank avec les couteaux là, qu'on avait publiés. Je pense que je vais faire ça, mais je vais essayer de poursuivre le chat comme ça, pour voir s'il finit par foutre un coup sur le truc. J'ai un chat, je suis à peu près certain qu'il finira par foutre un coup sur le tank, si ça fait pas trop de bruit, plutôt que de s'enfuir, elle essaiera de lui casser la gueule. Donc je testerai ça. Mais donc si tout va bien, je le reçois demain, donc si vous êtes très très sage, vous aurez peut-être un Twitch live de Nintendo Labo, demain, avec unboxing et tout le bordel.
Comme c'est classe.
Et comme on est les gens les plus classes du monde, vous le savez maintenant, vous commencez à nous connaître.
Tu déballes du carton pour avoir du carton.
Exactement. Et encore mieux que ça, ce sera le seul stream Twitch sur le Nintendo Labo en 60 FPS, et oui.
Parce qu'il fallait au moins et en 1080p.
Et en 1080, non, ça je peux pas. Mais en 1080p. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Oui,
voilà.
Oui, 1080p, hein, pas 1080 degrés, monsieur.
Non, 1080p. On a du self-respect, 1080p. Donc voilà, hein, c'est tout. Hein. Voilà, il y a des gens qui gèrent, et puis il y a Julien Chiez.
Comme ça, on verra mieux les pliages et les montages.
Et les démontages aussi. Ça va être compliqué. Mais vous verrez tout le montage en direct, vous aurez la petite notice en bas à droite de l'écran, j'ai déjà préparé toute la scène, ça va être aux oignons. Et un jour avant la sortie officielle...
Waouh.
Parce que, exclusivité mondiale, hein, je veux dire, comme toujours. Bref, ouais. On se retrouve la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis pour cette émission qui fut beaucoup plus longue que ce que j'envisageais au départ. On a un peu traîné sur 1080.
Peut-être.
Bizarrement.
Là, c'était de la poudreuse.
Tout à fait, on est passé en mode slideshow. Bref, à la semaine prochaine, merci, ciao tout le monde, bisous.
Salut.
Salut.
Bye.